enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Et aujourd'hui, Thierry Garcin, cette question impressionnante dans son intitulé, et je compte sur vous et votre invité pour tout démystifier pour nous. Comment expliquer la gesticulation balistique du régime coréen ? Vous avez 10 minutes.
Merci, en tout cas c'est un titre évidemment un peu provocateur. Il est vrai que hier encore 3 tirs ont été pratiqués par Pyongyang. Enfin, c'est anecdotique par rapport à ce qui se passe. On va parler de la nature du régime. Comment expliquer donc ce régime ? Pascal Daïez-Burgeon, bonjour. Vous êtes spécialiste de la péninsule coréenne, on vous doit la dynastie rouge, la Corée du Nord, 1945-2014 chez Perrin, livre très instructif. Et donc on sait que c'est un royaume ermite, la Corée du Nord ne cesse d'inquiéter, c'est peu dire, elle a l'arme nucléaire et l'on ne marche pas sur les pieds d'une puissance nucléaire, quatrième essai nucléaire début 2016. D'autre part, en obtenant ce statut remarquable, elle a sanctuarisé son régime, même si elle subit des sanctions de l'ONU. Elle s'est fait des États-Unis son premier interlocuteur sur la scène internationale. Il y a évidemment un motif d'inquiétude récurrent, c'est le caractère imprévisible du dirigeant Kim Jong-un. Son oncle, le numéro 2 du régime, avait été exécuté en 2013 et en juillet dernier, semble-t-il, un vice-premier ministre a été également exécuté pour manque de respect. Et puis il y a cette question balistique qui irrite à juste titre autant la Corée du Sud que le Japon. Alors, c'est 1000 questions à vous poser finalement.
Oui.
Ben écoutez, la première, c'est finalement quelle évaluation de ce régime ? Comment est-ce que ça fonctionne d'ailleurs ?
C'est un régime, effectivement, une autocratie totale. Le dirigeant est la nation, d'une certaine manière. C'est quelque chose, je crois, qu'on minore peut-être un peu chez nous, à quel point il incarne le pays, et donc les habitants sont attachés. Et ses succès atomiques et ses succès balistiques sont autant de manifestations internes, c'est-à-dire qu'il impose son autorité grâce à ses succès militaires. Et à chaque expérimentation nucléaire, à chaque essai réussi, il y a des dizaines de milliers de gens qui poussent des hurlements de joie. Manzé, hein, 10 000 ans, on croit que tout ça est forcé. Ce n'est pas obligatoirement forcé. Il incarne véritablement la nation et ses succès militaires lui permettent de tenir à l'intérieur même du régime où, bien sûr, il n'a pas d'opposition constituée, mais où on pourrait quand même comprendre qu'il y ait des gens qui se rebellent contre quelque chose qui ne fonctionne pas bien. En fait, on reproche toujours à son entourage de ne pas être bon, mais le dirigeant lui-même est inatteignable, il est la nation.
Alors, et qui a-t-il autour de lui ? Parce que c'est un peu un exercice, ça me rappelle l'exercice de soviétologie dans les années 60, où
oui,
on essayait d'examiner les rapports de force au sein du politburo de 9 ou 10 membres, et ça devenait complètement byzantin et surtout très hypothétique.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éliminations. On estime à une centaine d'officiers généraux qui ont quand même été mutés depuis qu'il est ou éliminés depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Beaucoup de ministres aussi. On parle encore de ministres d'éducation qui récemment auraient été éliminés sous prétexte qu'il aurait non pas dormi mais essuyé ses lunettes alors que le grand dirigeant faisait un peu un discours. Le problème, c'est que toutes
mais les il pleurait peut-être d'émotion d'ailleurs.
C'est possible. Le problème est que toutes les sources nous viennent quand même du Sud, de services qui sont parfois quand même un petit peu dans la propagande eux aussi, et que les anecdotes ont tendance à se répéter en boucle, donc il manque parfois un peu d'imagination. Donc c'est quand même le troisième ministre éliminé sous prétexte qu'il dormait ou qu'il n'était pas tout à fait sérieux au moment d'un discours. On peut se demander si c'est tout à fait la vérité, c'est-à-dire qu'on est un peu désinformé sur un régime qui par ailleurs n'est pas défendable. Donc la position de l'analyse devient très compliquée.
C'est un régime de la terreur quand même.
Absolument, hein, qui fonctionne bien entendu sur l'existence de camps, qui n'est pas reconnu en interne mais dont tout le monde connaît l'existence, et sur toute une série de polices politiques parallèles, tout le monde se surveille les uns les autres, donc oui, on tient par la terreur. Ce qui est important aussi, c'est le nombre d'exécutions annuelles, la peine de mort est donc toujours appliquée, et on peut être condamné à mort pour toute une série de raisons, et notamment tout ce qui est propagande anti-régime ou promotion de ce qui vient du Sud. Donc on lit régulièrement que telle ou telle personne a été exécutée pour avoir regardé un CD avec un feuilleton ou un film venant du Sud. On peut en fait estimer que ce sont plutôt des trafiquants d'objets culturels venant du Sud. Mais il y a donc des exécutions publiques très régulières dans toutes les régions qui, bien entendu, maintiennent la population dans la peur du régime. C'est un régime qui fonctionne fonctionne effectivement sur la terreur, le nationalisme exacerbé et maintenant une certaine ouverture économique dans la capitale.
Alors, on va parler d'un mot de l'économie, mais avant, quid de l'armée comme institution militaire ?
Elle est l'institution du régime. Hein, la formule, c'est celle qu'on employait à propos de la Prusse. Ce n'est pas un État qui a une armée, mais c'est une armée qui possède un État, d'une certaine
manière.
On a
dit ça aussi, c'est le FLN qui disait ça de l'Algérie, dans ses bons moments d'humour. L'Algérie, c'est pas un État qui a une armée, c'est l'armée qui a l'État. Mais c'était une plaisanterie des années 70.
L'armée, ou plutôt l'escouade de partisans qui s'est emparée du pouvoir en 1945, à l'issue de la, bien sûr, de la guerre, mais aussi de la résistance anti-japonaise, ne l'a jamais rendue, d'une certaine manière. Donc la logique de cet État, c'est d'être un État en guerre ou en guérilla permanente, c'est un État de partisans. Voilà, et ben les partisans de Kim Il-sung sont encore au pouvoir, ou du moins leurs dirigeants, et se comportent de cette manière-là vis-à-vis de l'étranger. Quand on comprend cette logique, on comprend qu'ils ne soient sans foi ni loi. Ce sont des gens qui sont en conquête du pouvoir en quelque sorte permanente. Donc oui, c'est l'armée qui tient le pays. Et d'ailleurs, depuis la grande crise de 95, elle est considérée comme l'axe majeur de la révolution, si l'on peut dire, locale. Le régime n'est plus vraiment communiste. Hein. Et elle a tous les privilèges. C'est l'armée qui est l'ossature de l'État. Être dans l'armée, c'est d'être dans le corps privilégié.
Une forme d'oligarchie, alors, d'une certaine façon. Et sans doute
oui,
de plutocratie, d'ailleurs.
Tout à fait. C'est un État oligarchique. L'armée, c'est à peu près 8 à 10% de la population qui tient le reste du pays.
On va terminer, Pascal Daïez-Burgeon, par l'économie. L'évolution sur le long terme passé depuis 5-10 ans.
Paradoxalement, les choses se redressent depuis l'épouvantable crise des années 90. Malgré le blocus qui, bien entendu, se resserre depuis les essais atomiques à partir de 2006 et qui n'est pas bon pour le développement économique, néanmoins, on constate un décollage, notamment dans la capitale, la région du centre, qui est totalement privilégiée par rapport au reste du régime, et l'apparition d'une bourgeoisie d'affaires qui, curieusement, selon tous les témoignages, prospère, est affairiste, possède les codes actuels de la réussite économique, c'est-à-dire des ordinateurs, des portables. Il y a à Pyongyang des cafés Internet, enfin, ou intranet. Hein, l'Internet coréen n'est évidemment pas connecté au reste du monde, mais il y a développement de nouvelles technologies à l'intérieur du pays. Donc la situation va mieux. Et un des indices, c'est l'électricité. Avant, tout le pays était plongé dans l'obscurité. Maintenant, à Pyongyang, il y a des quartiers entiers qui sont allumés toute la nuit. Donc, en fait, l'économie nord-coréenne se porte mieux. On a évidemment peu de données puisqu'elles nous viennent toutes de la Corée du Sud et elles sont toutes biaisées. C'est sans doute les relations avec la Chine, le développement d'entreprises chinoises en Corée du Nord qui permet à l'économie de progressivement se redresser. Donc, en gros, l'économie nord-coréenne est aux mains de la Chine. Et la Chine pourrait, en quelque sorte, totalement ruiner le pays, ce qu'elle ne fait pas.
Oui, j'ai vu d'ailleurs que 90% des exportations, enfin, ou du commerce extérieur plutôt, va vers la Chine. C'est-à-dire, c'est un pays qui est,
néocolonisé,
mais il est une marge de manœuvre très limitée finalement.
Une marge de manœuvre économique effectivement limitée. Il y a aussi quand même une zone économique avec le Sud. Donc ces deux partenaires principaux, c'est la Chine et le Sud. Le Sud, évidemment, pour le moment, a mis vraiment un frein à cette zone économique spéciale. Donc c'est de la Chine que tout vient, et notamment les livraisons de pétrole. Donc en gros, Pékin aurait la possibilité de ruiner complètement le régime, ce qu'il ne fait pas pour des raisons parfaitement compréhensibles.
Et géopolitique aussi.
Et géopolitique, le refus d'avoir une frontière commune avec les États-Unis, puis le refus surtout de faire une crise dans la région qui n'en manque pas et qui n'a pas besoin d'une crise supplémentaire, d'une nouvelle guerre de Corée.
Merci beaucoup. Donc, Corée 50-53, terrible, évidemment, dans ses conséquences humaines. Pascal Daïez-Burgeon, La dynastie rouge, la Corée du Nord, 1945-2014. Perrin, merci de cet éclairage et de votre souci de la synthèse. Et je rappelle donc franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et demain, nous parlerons, d'ailleurs, on restera d'une certaine façon dans la région, nous parlerons, Émilie Chaudet, nous parlerons de Taïwan et de ses relations avec l'Europe.
Merci Thierry Garcin. Chaque matin, j'ai cette image de vous avec François à côté et vos échanges de regards pendant vos enjeux internationaux.
Les deux vestiges de la matière primitive radiophonique.
Et je me dis... Et je me dis à ce titre que vous devriez, François, présenter les enjeux internationaux un jour et Thierry Garcin des émois culturels.
Il n'y a pas de problème, on a déjà essayé. Un jour de carnaval, on va faire ça, chacun changera les rôles.
Eh bien, il faudra programmer ça. 6h55 sur France Culture.